Le livre de l'Apocalypse commence avec pas tant un message pour la fin des temps, mais un regard sur cette église du premier siècle qui était autour d'Éphèse. Et donc cette lettre Apocalypse, c'est aussi une épître qui a tourné parmi ces églises, et nous regardons un peu chaque église, voir ce que nous pouvons apprendre. En quoi le BTM ressemble ou pas à certaines de ces églises pour rectifier le tir, s'il vaut, comme nous venons de chanter, la vie chrétienne est faite de repentance, de remise en question. Et donc, encore ce matin, ce sera le cas. Donc, nous allons regarder l'église de Sardes, c'est en chapitre 3, versets 1 à 6. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, il me semble qu'en France, on dit souvent, il faut commencer par balayer devant sa porte. Il faut commencer par balayer devant sa propre porte avant de s'occuper des autres. Eh bien, c'est ce que fait Jésus dans cette lettre de l'Apocalypse. C'est vrai que dans ce livre, il sera question du jugement dernier, le jugement des nations, le jugement des païens, des incrédules. Mais ses propres églises y passent d'abord. On ne pourra pas reprocher à Jésus de ne pas commencer par balayer devant sa porte. Et donc ces passages, c'est cette église-là, les remarques qu'il fait à chacune de ces sept églises dans les chapitres 2 et 3 au début de ce livre, c'est comme un grand coup de balai pour nettoyer, pour purifier son église avant de parler du jugement. Et que le livre de l'Apocalypse commence ainsi, ça montre que Jésus a programmé dans l'ADN de son Église, de ses Églises, et il a programmé dans l'ADN une capacité de remise en question, une capacité de repentance, une capacité de réforme, une capacité d'autocorrection, puisque voilà, toutes ces Églises, c'est un peu l'évaluation, le bilan de Jésus avec des appels à changer, à se purifier, à se réformer. Et alors, c'est vrai que l'histoire du christianisme n'a pas toujours été brillante, mais il est aussi vrai que l'Église n'est pas en déclin constant. Donc, c'est ça qui est miraculeux, parce que la plupart des choses se déclinent et se pourrissent, et on n'en parle plus, mais ce n'est pas le cas pour l'Église de Jésus-Christ. Des fois, elle a fait des choses contraires à la volonté de son Seigneur. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est aussi l'histoire des réformes, des réveils, des repentances, des retours à la Bible, des moments où l'Église s'éveille aux vérités qu'elle a peut-être oubliées pour revenir à l'Évangile, pour revenir à la Bible, pour corriger son comportement dans des domaines où elle s'est endormie. Des fois, c'est aussi l'histoire des schismes salutaires pour qu'on revienne à la vérité. Certains regardent le paysage chrétien et disent « Oh là là, quel manque d'unité !» Donc c'est vrai, on a prié qu'il nous faut l'unité, mais on pourrait aussi regarder et dire « Quel miracle, il y a encore un peuple fidèle, un reste que Jésus préserve, comme nous voyons dans ces églises. » Même les mauvaises églises, il y avait un reste fidèle que Jésus voulait encourager et enseigner. Donc, on peut regarder le paysage chrétien, déplorer le manque d'unité ou bien s'émerveiller de la fidélité de Jésus qui, malgré 2000 ans d'hommes pécheurs, il y a un peuple fidèle. Ça aussi, c'est l'histoire de l'Église. Et donc, c'est ce que cette Église, à Sardes notamment, est appelée à vivre, à se réveiller. Et donc, ce matin, nous allons voir... On va aborder ce texte avec d'abord le problème de Sardes, ensuite la solution de Jésus, et surtout des raisons de suivre la solution de Jésus, des récompenses qu'il offre pour ceux qui adoptent sa solution. Donc tout d'abord le problème, ensuite la solution, et puis la raison de suivre cette solution. Regardons tout d'abord le problème de Sardes. Jésus le dit en verset 1, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, » mais tu es mort. Littéralement, tu te donnes le nom de vivant, la traduction de Darby, très utile. Tu te donnes le nom de vivant, mais moi je t'appelle morte. D'autres traductions, tu as la réputation d'être vivant, mais c'est pas la réalité. Tu as la réputation d'être vivant, mais la réalité, c'est tu es mort. C'est déjà pas bon signe quand Jésus te traite de mort, hein, en tant qu'Église. On veut pas ça. Mais c'est quoi le problème de cette église de Sardes? Eh bien, il y a une apparence de vie religieuse, il y a une apparence d'activité spirituelle, ils ont une réputation autour, mais ce n'est pas authentique, ce n'est pas réel. La façade est jolie, mais l'intérieur est vide. J'ai vu apparemment, pour les étudiants qui s'endorment dans les cours, c'est pratique, il y a des lunettes où on peint les yeux ouverts, un œil ouvert, et derrière on peut s'endormir. Eh ben, d'accord, c'est pratique pour ne pas être grondé par le prof, mais malheureusement, ça arde un peu ça. Une façade d'être une église éveillée, mais Jésus dit, t'es mort, tu t'endors. Et là, ça nous interpelle quand même, parce que c'est un danger qui guette toutes les églises, notamment au fur et à mesure que le temps passe. Des églises historiques, des églises qui sont là depuis un certain temps. C'est vrai qu'une nouvelle église, une implantation, ils sont éveillés par défaut parce qu'il faut l'être pour avancer, pour évangéliser. Mais les églises qui commencent à avoir des décennies, et puis, ou des siècles même, c'est une réalité très très commune d'avoir une apparence d'être là, mais d'être mort à l'intérieur. Jésus précise le problème dans le verset suivant. Je pense qu'on peut mieux cerner le problème de cette apparence, mais sans la réalité. Il avait dit, je connais tes œuvres, mais cette fois-ci, il les applaudit pas. Même d'autres églises qui allaient plutôt mal, il a dit, bon, vous êtes à l'œuvre, donc il y a des bonnes choses. Mais ici, il félicite même pas leurs œuvres. Il précise en verset 3, la deuxième partie du verset, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je connais tes œuvres, mais je les ai pas connues parfaites devant mon Dieu. Alors le mot parfait peut nous troubler, en tout cas ça me trouble. Est-ce que nos œuvres sont parfaites? Est-ce que les œuvres de l'EBTM sont parfaites? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des œuvres parfaites devant notre Dieu? Parce que je me dis, quand je regarde ma vie, mon cœur, et autour de moi, je force est de constater qu'aucune œuvre humaine est parfaite. Si la seule manière de servir Jésus, si la seule manière d'être une église fidèle, c'est de tout faire parfaitement, moi j'ai un problème, je pense que vous aussi. Est-ce que, donc, des œuvres parfaites, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais aucune fausse note chez les musiciens? C'est déjà raté pour moi ce matin. Est-ce qu'il n'y a aucun couac à la sono? Est-ce qu'il n'y a aucune erreur de grammaire ou de prononciation chez le prédicateur? Là encore, c'est raté. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune imperfection dans l'organisation, dans le fonctionnement de l'Église? Non, je veux dire, ces imperfections-là sont plutôt la preuve que Dieu utilise des gens imparfaits que nous sommes. Et si tout était nickel et parfait et professionnel, là, il y aura peut-être un souci. Donc, quand il dit tes œuvres sont pas parfaites, l'idée c'est plutôt complète ou entière, comme d'autres traductions. Je n'ai pas trouvé tes œuvres entières, comme un cœur entier. Je n'ai pas trouvé tes œuvres complètes devant mon Père. Des œuvres incomplètes, ce sont des choses qu'on fait, mais qui manquent justement la motivation de l'amour pour Jésus, ou qui manque la foi dans ses promesses, qui manque une sincérité du cœur. C'est lorsqu'on fait des choses dans le cadre de notre foi, de l'Église, qu'on fait des choses pour soigner la façade, pour être bien vu des autres. Et justement, pas devant son Dieu, devant mon Dieu, c'est assez personnel, devant le Dieu, c'est aussi le Dieu de Jésus, mais ce Dieu est notre Dieu, et on fait des choses pour lui, devant mon Dieu. On devrait pouvoir dire ça aussi. Mais souvent, on les fait plutôt devant les gens. Et c'est ça qui nous intéresse, le regard des gens, pas le regard de Dieu. Donc pour Sardes, vous voyez, la réputation, le regard des autres, l'apparence, c'était la chose la plus importante. Et leurs œuvres n'étaient pas complètes, entières, parce que c'était pour se donner un nom, pour se donner une réputation. Ça, c'est l'Église, mais c'est vrai qu'au niveau individuel, certaines vivent la vie chrétienne ainsi aussi. On se donne le nom de bon chrétien, on soigne la réputation d'être un bon chrétien. Mais on serait très embêté si un frère et une sœur de l'Église savaient vraiment ce qu'on vivait, nos luttes, nos lacunes, nos défauts. Et c'est ça, une œuvre imparfaite, Jésus préfère qu'on vienne le cœur transparent avec nos péchés. Et ça serait plutôt une œuvre parfaite, vraiment une repentance sincère comme nous avons chanté. Ça serait, cette œuvre-là sera plus parfaite que de juste la façade, la réputation d'être tout clean, tout propre, tout sage, alors que l'intérieur manque. Ça serait une œuvre imparfaite, vous voyez. Voilà le problème de cette Église. Il se donne un nom de vivant, mais elle est morte. Et en plus, a priori, l'Église de Sardes était une Église carré, une église fidèle, une église biblique. Parce que Jésus ne reproche pas à cette église des mauvaises doctrines. On a vu que les autres églises, si les autres églises qui frôlaient un peu avec les doctrines, il y avait les Nicolaïtes qui avaient une fausse doctrine qui est dénoncée, il y avait Jézabel, il y avait Balaam, des personnages de l'Ancien Testament qui ont été... comme repris des hérésies, des fausses doctrines, des fausses pratiques qui ressemblent à la même chose dans l'Ancien Testament qui s'est glissé dans ces églises, et Jésus était assez sévère pour reprocher aux églises qui pratiquaient, qui traitaient dans ces fausses doctrines, mais il ne reproche pas à Sardes une mauvaise doctrine. Ou les pratiques idolâtres, l'immoralité sexuelle que leurs églises voisines avaient adoptées. Donc oui, Thyatire, Pergame, Sardes pouvaient dire, oh là, ça c'est des églises infidèles, mais nous on n'a pas ça. Mais Sardes avait réussi à créer une culture d'église où la réputation d'être vu comme des bons chrétiens primés sur une vraie foi vivante, éveillée. Et quand on vit comme ça, juste la façade qui compte, l'apparence qui compte, ça conduit vers une religion morte, une foi morte, une église morte, parce que voilà, c'est que la façade, c'est pas, il manque l'essentiel. Alors ça, c'est un avertissement à toute église. On peut dire oui, nous sommes une église avec un beau bâtiment, un beau clocher, un placé centre-ville. Ou quelqu'un d'autre pourrait dire, oui, nous sommes une église avec une super chorale gospel. Ou bien nous sommes une église avec une grande action sociale, humanitaire. Nous sommes une église avec un illustre héritage protestant. Mais Jésus peut voir plus loin et dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais tu es une église morte. C'est ce qu'il dit à Sardes. Donc ça nous interpelle aussi. Et on veut pas finir avec ce bilan de Jésus. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, nous allons voir la solution de Jésus. Au lieu d'être une église morte, une église endormie, il dit, verset 2, il passe déjà à la solution. Sois vigilant. D'autres traductions, réveille-toi ou reste éveillé. Donc là, entre l'image d'une église morte et l'église endormie, c'est un peu la même idée. Et dans les versets suivants, c'est plus cette image de se réveiller, de ne pas être une église endormie, puisqu'on le retrouve ici, verset 3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc il y a cet appel à la vigilance spirituelle, être éveillé, c'est ça la solution entre s'endormir, mais vivre une foi authentique, éveillée, et vigilante. Et il faut savoir que cet appel à la vigilance spirituelle était très parlant à la ville de Sardes, parce qu'ils avaient une histoire, plusieurs histoires, dans cette ville où cette vigilance est entrée en jeu. Je vous raconte un peu. Donc ça, c'est l'histoire des batailles, des rois et des empires. Mais Sardes, qui se situait dans ces régions où le monde est très ancien. Donc, à un moment, cette ville de Sardes a été attaquée, assiégée par le roi Perse, le roi Perse s'appelait Cyrus. Et ce roi Perse assiégeait la ville, mais la ville de Sardes avait quand même réussi à se défendre et à repousser les attaques, et elle tenait forte, notamment parce que la ville de Sardes pouvait être assez bien défendue, notamment parce que toute une partie de la ville il y avait des rochers escarpés, et donc la ville pouvait concentrer les défenses sur les murs et ne pas trop s'inquiéter d'une attaque par les parties de falaises, les rochers d'un côté de la ville. Donc Cyrus, qui essaie d'envahir la ville, il a du mal à franchir les murs. Donc il fait une annonce à tous ses soldats, il offre une récompense à celui qui trouverait une manière de percer les défenses et d'entrer dans la ville. Et donc là, il recommence les attaques, ça marche pas. Mais un jour, un des soldats, il s'appelle Hiroédias, il se promène par là et il voit sur une partie des rochers, il voit un soldat de la ville, un soldat des défenseurs, qui passe par là, il fait tomber sa casque tombe de sa tête, et la casque roule un peu, et il voit le soldat enjambé, et puis descendre dans les rochers pour récupérer sa casque, et puis remonter et retourner dans la ville. Et en voyant ce soldat remonter les rochers, il dit « Ah, là, il y a donc un chemin, je peux passer par là. » Et donc lui et quelques hommes, ils ont suivi ce même chemin, même par les rochers, ils sont arrivés dans la ville, ils ont pu prendre la ville, capturer la ville. Donc il a réussi à passer par l'endroit où la ville de Sardes croyait imprégnable, ils n'avaient pas mis beaucoup de défense là-bas. Et c'est là, donc, ils ont manqué de vigilance à cette partie de la ville pour perdre la ville. Et donc, cette histoire était assez connue, célèbre dans leur histoire, un peu comme le cheval de Troie. Même nous, on connaît l'histoire du cheval de Troie, on va l'utiliser comme une image de la vie spirituelle parfois. Mais Jésus utilise cette histoire, certainement, il s'appuie un peu sur cette connaissance de ce qu'on peut s'endormir sur certains endroits, on peut manquer de vigilance et laisser l'ennemi entrer. Et la vie chrétienne, spirituelle, Et ainsi, il faut être vigilant. Et cette église est appelée à se réveiller, à pas se contenter d'une apparence, d'une réputation, mais être vigilant sur tous les fronts et être pleinement éveillé, comme des soldats qui défendent leur ville. On a vu, l'église de Sardes pouvait être très fière. Certaines défenses étaient bien en place. Je pense qu'il défendait bien contre l'immoralité, contre l'hérésie, contrairement à d'autres églises. Pergame, Thyatire avait laissé entrer ces fausses doctrines, ces fausses idées, ces pratiques immorales, des Nicolaïdes, des Balamides, des Jézabel. Et donc l'église de Sardes, oui, nous on défend très fort contre ça, il n'y a aucun souci. Nos défenses contre le monde païen qui s'infiltre dans l'Église, elles sont fortes. Nous sommes une Église biblique, nous avons la réputation d'être une Église biblique, mais peut-être ont-ils oublié de défendre justement contre des partis qui croyaient, ils pensaient pas, défendre aussi contre l'orgueil, défendre eux aussi contre l'hypocrisie, défendre des fois contre le légalisme, contre la routine qui s'installe. Et l'ennemi peut passer par là pour nous endormir. Donc la solution de Jésus, c'est d'être pleinement éveillé à sa personne, à ses promesses, à sa parole, sur tout aspect de la vie chrétienne, pas juste une partie, mais pas juste un jour de la semaine, mais tous les jours. Voilà. C'est ça, être vigilant. Alors, quels sont les signes que nous sommes endormis? Après, c'est assez difficile. Quelqu'un qui dort, il ne sait pas qu'il est endormi. Et donc, il faut s'interroger, je m'interroge aussi. Si ma vie spirituelle était endormie, si mon église était endormie, est-ce que je le saurais? Parce que quand on dort, on ne sait pas qu'on dort. On sait qu'on dort un peu avant de s'endormir, ou au moment où on commence à réveiller, là on entend la voix et on se rend compte qu'on était endormi. Donc, mais il y a peut-être quelques signes où on peut être alerté sur le fait qu'on est en train de s'endormir, ou peut-être que Dieu est en train de nous réveiller. C'est ma prière aussi ce matin. Quels sont les signes que nous avons baissé notre garde, notre vigilance, que nous sommes un peu somnolents? Vous savez, sur l'autoroute, des fois, vous sentez les paupières lourdes, et là, vous n'êtes pas encore endormi, mais le danger est là, donc il faut peut-être faire quelque chose. Mettre la musique, ouvrir une fenêtre, voilà. C'est l'occasion ce matin aussi de voir où en est nous dans notre conduite chrétienne. Quels sont les signes que nous sommes endormis? Peut-être plus de progrès spirituel réel dans notre vie? Plus de soif de la Bible, de la parole de Dieu? Je pense qu'un autre signe, c'est qu'on ne lutte plus vraiment contre le péché. On tolère certains assez facilement. Un autre signe, c'est que justement, le paraître est devenu plus important que la vraie communion avec Dieu, que la communion avec les frères et sœurs, une certaine transparence. Un autre signe, c'est qu'on fait tout dans l'Église par routine, par tradition, par habitude. Et si on demande pourquoi on fait telle ou telle chose, la seule réponse qu'on a, c'est bah, on a toujours fait comme ça. Et ça, c'est un signe que il manque peut-être. Il y a que la façade, il n'y a pas la réalité. Même si la routine et la tradition peuvent être utiles et précieuses pour garder une église, mais on revient à pourquoi on fait ça. Est-ce que ça nous amène à l'essentiel? Ça nous fait aimer Jésus davantage. Et puis plus généralement, je dirais un signe. Le majeur, c'est que les vérités de l'Évangile, que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il règne, qu'il revient, ces vérités nous laissent indifférentes. Ces vérités, on les trouve fades. Oui, j'ai entendu ça à l'école du dimanche, mais bon, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ça, c'est signe qu'on s'endort et qu'on a besoin d'entendre ces paroles de Jésus. Reste éveillé, sois vigilant, affirme le reste qui est prêt de mourir. Rappelle-toi, il dit verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Ça, c'est la solution de Jésus. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Si vous êtes chrétien, rappelez-vous comment vous avez au début entendu et reçu cette parole. Ça, réfléchissant. Là, comment avons-nous reçu et entendu la parole tout au début de notre vie chrétienne? Vous vous rappelez quand vous avez vécu ce déclic avec Jésus? Peut-être ce jour-là, vous avez déjà entendu ou pas encore, mais le message de Jésus vous a touché. La beauté de la croix, le sens de la croix vous a saisi dans le cœur. Vous avez compris, oui, il est mort pour moi, il m'aime, il me pardonne, il prend soin de moi chaque jour, et ces vérités-là vous ont vraiment touché le cœur. D'ailleurs, je trouve que les chants que nous rappellent, c'est une raison que nous chantons dimanche matin, c'est que ça nous permet de nous rappeler comment nous avons reçu et entendu la parole. Ces chants sur l'Évangile, le Dieu des Lumières devient mon Père, je peux m'éveiller à cette vérité. Pensez au baptême, par exemple. On aime bien, c'est un privilège du ministère de pouvoir accompagner des gens au baptême, mais c'est un privilège pour notre église de les vivre ici, un dimanche matin, par exemple. Mais on voit ces baptisés, ils sont éveillés, même jeunes dans leur foi. Ces personnes aiment bien étudier la Bible chaque semaine avec un groupe de personnes, des cours découvertes, ils découvrent des choses. Ces personnes sont prêtes à venir ici parler devant tout le monde. Il faut le faire. Elles sont prêtes à le faire, pas pour soigner une apparence, pas par une réputation qui se donne, mais on voit que il y a quelque chose d'authentique, un amour pour Jésus-Christ. Il y a des imperfections, mais il y a quelque chose d'authentique qui nous touche tous. et qui nous invite, nous, à nous rappeler comment nous avons entendu et reçu cette parole. Vous voyez, c'est ça qui nous protège, c'est ça la solution de Jésus pour rester éveillé. La maturité chrétienne, le progrès chrétien, c'est de redécouvrir ces mêmes vérités de la parole, de l'évangile, comme nous les avons entendues et reçues au début. La maturité, c'est d'en être touché à nouveau. Et ça va fournir le déclic pour laisser tomber un péché, pour aller demander pardon à un frère, pour s'impliquer dans un ministère de l'Église, parce que voilà, en pensant à ce que Jésus-Christ a fait pour moi, en pensant à comment il m'a accompagné jusque-là, eh bien, je peux encore rester éveillé à lui. Il m'aime, comme il m'a sauvé et pardonné, comme j'ai confessé, eh bien, je veux revivre ça. Et c'est ça le drame d'une église qui s'endort, une église morte, c'est qu'elle a oublié la parole, elle a oublié l'évangile qui donne une joie, une passion, un dynamisme, une énergie, une vie pour vivre l'église. Donc, Sardes était en danger. Mais il reste quelques hommes, affirme le reste qui est prêt de mourir. Sois vigilant, réveille-toi. Vous êtes pas complètement endormi, complètement morte. Jésus les invite à se repentir. Et enfin, il termine avec, je vous laisse ça, des raisons ou des récompenses pour ceux qui suivent la solution de Jésus, ceux qui cherchent cette vie chrétienne authentique, éveillée. Il y a des récompenses pour cela. Et Jésus donne trois encouragements, des promesses pour ceux qui cherchent cette vigilance, cette foi éveillée. C'est pas juste le paraître, la réputation, mais une vraie vie spirituelle. Il dit en versets 4 et 5, c'est un peu la promesse, ils marcheront, verset 4, il dit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Puis verset 5, c'est la même promesse. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Donc, une des raisons, une des récompenses, c'est des vêtements blancs. Et puis, une deuxième, il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et une troisième, c'est je confesserai son nom devant mon Père, devant les anges. Donc, des vêtements blancs, le nom non effacé du livre de vie est confessé devant le Père et les anges. Et en fait, toutes ces images de récompense, c'est imagé, hein, on est dans un livre assez symbolique, donc on essaie de creuser l'image. Toutes ces images, toutes ces récompenses, je dirais, tournent autour de la même idée, c'est celle justement de la réputation, du nom, le renom, le nom qu'on essaie de se donner. Et ça répond bien au problème de Sardes, qui, eux, ils avaient, voilà, ils mettaient plus l'accent sur une apparence, une réputation, au lieu d'une réalité derrière. Et c'était le grand problème. Là. Il va dire, en verset 1, tu te donnes le nom de vivant, tu te donnes la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Et on a vu qu'à force de mettre l'accent sur l'apparence, cette église s'est endormie. Mais Jésus, vous voyez, il offre mieux que l'apparence, il offre mieux que le paraître, et il offre mieux qu'une façade de vie, de sainteté, il offre la réalité. Et c'est ça un peu la promesse des vêtements blancs. Déjà, pour une église qui met beaucoup d'accent sur l'apparence, je trouve fort cette récompense, tu seras vêtu de vêtements blancs. C'est peut-être pas trop à la mode, nous, de tout s'habiller en blanc, mais beaucoup pensent ici, ça fait référence un peu à la culture romaine, et notamment de marcher dans la défilée triomphale à côté du vainqueur, habillé de vêtements blancs, ça faisait partie des honneurs au vainqueur, habillé en vêtements blancs et marcher avec le conquérant. Et là, oui, tout le monde veut être vu comme ça. C'est pas juste une réputation de façade. C'est la réalité. Tu es victorieux, vainqueur. Tout le monde aimerait être vu dans ses vêtements blancs à côté du gagnant. Et puis, ça c'est dans la culture romaine et je dirais plus largement dans la culture biblique, l'idée de vêtements blancs. c'est souvent symbolique d'être couvert de pureté, couvert de justice, couvert de sainteté, couvert de la victoire de Jésus-Christ. C'est l'offre de l'Évangile. On est couvert de sa pureté, de sa sainteté. Ah, et avec cette promesse, plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un de bien. On est couvert, on est habillé par Christ lui-même et on peut se présenter comme quelqu'un vraiment de bien, de juste. Ça vient pas de nous-mêmes, ça vient de la manière qui nous couvre comme des vêtements blancs. Fini la pression de porter le masque, fini la pression d'une façade spirituelle. Chacun peut dire, ma réputation est déjà faite, déjà réussie en Christ. Donc, je peux vivre une vie chrétienne éveillée, authentique. J'ai pas besoin de me soigner tant du regard des autres. Donc déjà les vêtements blancs, mais aussi c'est la même idée du nom, je dirais. Vous avez vu que le mot nom revient au moins 4 fois dans le texte, c'est pas toujours traduit. Dans ma Bible, la même chose, mais en verset 1, il avait dit « Tu te donnes le nom de vivant, mais tu es mort. » En verset 4, « Cependant, tu hasardes quelques hommes, littéralement, tu hasardes quelques noms qui sont fidèles. » Et puis encore ici, en verset 5, « Je n'effacerai point son nom, et puis je confesserai son nom. » Et vous savez, à l'époque, et encore aujourd'hui, l'idée du nom, c'est pas juste quelques lettres d'un prénom, mais le nom, c'est la réputation, c'est toute la personne. Et donc, il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. À l'époque, les villes gardaient des registres des citoyens. Les noms étaient inscrits dans un livre. Et si votre nom était dans le livre, vous aviez droit à vous aviez tous les droits et tous les honneurs dus aux citoyens de telle ville. Et puis vraiment, si votre nom était effacé, voilà, vous êtes banni, vous étiez personne. Donc il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Là, on a tous les honneurs, tous les droits du citoyen du ciel. Voilà, ça c'est une réputation, ça c'est un nom. Ou encore un peu la même idée, tournée autrement, je confesserai son nom devant mon Père, devant les anges. C'était devant l'opinion céleste, devant le jury. Jésus répond lui-même de notre réputation, de notre nom, de notre état, de notre stand-in. Il dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Là encore, pas besoin de se faire un nom, pas besoin de se donner des airs. Pas besoin de faire semblant d'être un bon chrétien. Là, c'est Jésus lui-même qui dit, je vais confesser son nom. C'est une manière de dire, voilà, c'est un des miens. Je valide. Il est juste, il est net, il est pur. Je confesse son nom devant le Père, devant les anges. Et quelle libération, quelle liberté d'avoir cette promesse. Et c'est des raisons à vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ. Pas viser la façade, mais viser le cœur, l'intérieur. Alors que l'église de Sardes nous inspire en tant que EBTM, que Dieu nous éveille à cette réalité que Jésus sait tout, il voit tout. D'ailleurs, il s'est présenté comme celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles, les 7 esprits. Je pense que ça fait référence au Saint-Esprit. Mais ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, les 7 esprits, sont un peu expliqués comme le Saint-Esprit, mais qui parcourt toute la terre, qui a des yeux tout autour et qui voit tout. Alors c'est vrai que Jésus, par son esprit, il est omniprésent, il voit tout, il voit jusqu'au fond de notre cœur. Donc devant ce Jésus, le Saint-Esprit, ça sert à rien de juste donner une façade, il voit au-delà du façade. Mais ce Jésus qui voit tout, qui sait tout de chacun de nos vies, de chacune de ses églises, il nous aime. Malgré cela, il nous aime. Il nous offre cette occasion de revenir à lui, toujours de se repentir et de garder sa parole. Donc, ça fait que nous pouvons vivre des vies vraies. On peut être vrai devant lui, on peut être honnête avec Dieu. Ça commence par là, être honnête avec Dieu, être honnête avec soi-même. C'est son état, honnête avec les frères et sœurs à l'église, et de pouvoir vivre comme ça, c'est vraiment c'est un privilège, c'est une grâce. On se fatigue vite à toujours soigner que l'apparence, Mais Jésus nous donne la liberté d'être vrai, d'être éveillé, qui nous éveille, qui nous réveille ce matin à ces vérités. Prions. Seigneur, c'est vrai, c'est pas toujours agréable quand le réveil sonne le matin. C'est plus confortable de rester endormi. Mais c'est une fois réveillé, on est content de l'être parce que on peut vivre pleinement et s'occuper des choses. Et nous te prions que tu nous fasses la même chose. Des fois, on a besoin d'entendre ta voix qui nous réveille. Parfois, une voix forte, une voix sévère, mais une voix aussi remplie d'amour, parce que tu veux pas qu'on s'endorme, tu veux pas qu'on rate toutes les bénédictions qui viennent de te connaître, de vivre pleinement ton amour et de pouvoir en parler aux autres. Aide-nous en tant qu'Église à être éveillés, à être vigilants. Montre-nous peut-être des parties de nos défenses qui sont défaillantes, où l'ennemi peut y glisser, et nous à les renforcer. Merci pour chacun ici qui se donne pleinement à toi, qui vit une foi authentique, éveillée, individuellement, personnellement, que nous puissions nous encourager les uns les autres à toujours être vigilants, être authentiques face à toi. Nous prions pour les temps que nous vivons. Je prie que le Covid nous garde éveillés et ne pas nous endormir. Remercions pour ces temps de vacances, de repos, de détente pendant l'été. Mais ça peut aussi être des moments pour s'éveiller pleinement à toi. Et nous te prions pour toutes ces grâces. Au nom de Jésus-Christ. Amen.